Et le troisième, qui est un but qui dépasse l'ego. Alors, c'est cette fameuse notion de libération ou d'éveil dont je vais parler un peu plus longuement maintenant. Ben pour ça, si vous me permettez, on va partir de l'impression spontanée que nous avons d'être des entités limitées et finies. Comment est-ce que nous nous vivons ? Alors là, je vais faire un tout petit peu de philosophie, c'est-à-dire que je vais répondre à votre place, mais si on avait du temps et que je prenais le temps de que chacun conceptualise la façon dont il se représente son rapport au monde, en gros, on arriverait à cette conclusion. Vous allez, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de me dire. Chacun d'entre nous, on se vit comme une petite entité limitée qui est apparue à un moment donné dans un univers gigantesque qui nous précédait. On va exister pendant 80, 90 ans pour les plus chanceux d'entre nous. Et puis hop, on va disparaître. Donc nous sommes des entités éphémères. Et autour de nous, nous sommes quelque part dans un océan incommensurable, voilà, les étoiles, les galaxies, etc., qui existaient évidemment bien avant nous et qui existera évidemment bien après nous. Ça, c'est notre perception des choses dès lors qu'on cherche à la conceptualiser un peu. Et si on y réfléchit, tant que nous nous représentons les choses comme ça, nous sommes obligés de nous sentir en danger. Alors, concrètement, du matin au soir, vous ne vous sentez pas en danger parce qu'il y a tout un tas de choses qui font qu'on oublie cette situation. Mais le danger, il est quoi ? Il est que je suis moi tout seul en face d'un immense non-moi. Ce qui n'est pas moi est infiniment plus grand que ce qui est moi. Ce qui est moi est tout petit par rapport à ce qui n'est pas moi. Et la relation que j'ai qui est établie entre moi et ce qui n'est pas moi est une relation qui soit conforte mon moi, soit le met en danger. Comment est-ce que ça conforte mon moi ? Eh bien, si je mange des choses qui sont comestibles, ça fait que je continue à exister. Si je n'ai pas à manger, ou que si je mange des choses qui ne sont pas comestibles, ça met en cause mon existence physique. Si je rencontre des gens qui sont bienveillants et sympathiques, ça conforte que je suis quelqu'un de sympathique, qui a de la valeur, etc. Voilà. Et si je rencontre des gens qui me sont hostiles, qui considèrent que ce que je fais, c'est pas bien, et qui me critiquent, alors là, ça me met en cause mon existence, non pas physique, mais psychologique. Et je me sens mal, instabilisé, etc. Et ainsi de suite. C'est ce que, philosophiquement, on appelle vivre sur un mode duel. On vit de façon dualiste, c'est-à-dire il y a deux, il y a moi et il y a ce qui n'est pas moi, et ce qui n'est pas moi, soit c'est positif, soit c'est négatif, soit ça me confirme dans mon existence, soit ça la met en danger. Et bien, tant que notre perception de nous-mêmes sera celle-là, nous serons condamnés à ne pas être durablement heureux. De temps en temps, quand le cours des choses nous est favorable, nous nous sentons heureux. Si vous réfléchissez, quand est-ce que vous êtes heureux ? C'est quand le monde fonctionne comme vous avez envie et besoin qu'il fonctionne. Voilà, vous avez envie d'être en vacances, c'est justement une période où vous êtes en vacances. Vous avez envie d'aller à la mer, vous êtes justement à la mer. Vous avez envie qu'il fasse beau, justement il fait beau. Et vous avez envie d'être en bonne compagnie, et justement il y a des très bons amis qui vous rendent visite. Vous êtes heureux. Voilà. Et par contre, dès que le cours des choses se déroule autrement que ce que vous attendiez, eh bien, vous êtes plus ou moins gravement contrarié. Ces vacances, finalement, sont pourries, la météo n'est pas avec nous. Voilà, mais j'ai rencontré dans la rue telle personne qui m'a encore cassé les pieds parce que je sais pas quoi. Voilà. Donc, tant que nous sommes prisonniers de cette impression, je suis une entité finie et autour de moi, ce qui m'entoure va être soit positif, soit négatif, je suis condamné à avoir un bonheur éphémère et limité, ou mixte. Tantôt je serai heureux, tantôt je serai malheureux. Voilà. Et alors, nous vivons malheureusement dans une culture qui nous a conditionnés à penser que c'était ça la vérité de la condition humaine, que tous les êtres humains depuis toujours vivent comme ça, et donc il n'est pas possible d'être réellement et durablement heureux. Le mieux qui puisse être, tirer à peu près son épingle du jeu, et puis voilà, quand on est vieux et qu'on en a un peu marre, ben ouais, tant pis, on est d'accord, on accepte plus ou moins bien la mort, parce que bon, on se dit finalement, ma vie, j'en ai quand même bien profité. Voilà, c'est l'horizon. Il n'y a pas de... L'être humain ne peut pas aspirer à plus, ou s'il aspire à plus, c'est des balivernes, c'est des croyances... religieuse, par exemple, voilà, il n'y a pas de preuves. Si vous voulez, vous avez le droit de croire que, je sais pas quoi, vous irez au paradis après la mort et que ça sera extraordinaire. Vous avez le droit, mais personne n'a de certitude dans ce domaine. Et alors, c'est là où ces générations de sages, depuis les rishis des anciens temps jusqu'aux maîtres contemporains, nous disent non, cette façon de vous percevoir, elle n'est pas juste, elle n'est pas exhaustive, elle n'est pas complète. En réalité, si vous prenez le temps de faire un travail d'introspection, vous allez pouvoir découvrir que vous êtes plus que cette petite individualité limitée, et que vous portez en vous une dimension d'infini, et que si vous réussissez à vous connecter avec cette dimension d'infini, vous n'aurez plus l'impression de dépendre entièrement des conditions extérieures pour être heureux ou ne pas l'être. Pour l'instant, pour la grande majorité d'entre nous, notre bonheur est très directement lié aux conditions extérieures. Si les conditions sont favorables, on est heureux. Si elles ne le sont pas, nous sommes malheureux. Parce que nous vivons comme une petite entité limitée. Imaginez que c'était ça que Alain voulait que je fasse d'ici ce soir, donc on va s'y mettre. Que je vous fasse vous rendre compte que vous êtes en fait non pas une petite entité limitée, mais quelque chose d'infini. Quelque chose d'infini n'est pas diminué par une mauvaise nouvelle, n'est pas augmenté par une bonne nouvelle. L'infini reste l'infini. C'est ça la sagesse, c'est prendre conscience que nous sommes porteurs d'une dimension infinie. Alors il y a différents termes, j'en ai donné quelques-uns là. On trouve dans les textes, bien, vous n'êtes pas la partie, mais vous êtes le tout. Enfin, moi je me suis toujours pris pour une petite partie, et même une partie minuscule si je pense à l'univers. Et les textes me disent, non, vous n'êtes pas la partie, vous êtes le tout. Alors au début, on ne comprend rien. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas le fini, mais vous êtes l'infini. Mais non, moi je suis le fini, et voilà, je suis ici, je ne suis pas à votre place, etc. Et les textes disent, non, vous vous trompez, vous n'avez pas bien regardé en vous ce qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas le limité, vous êtes l'illimité. Tout ça, ce sont des mots sanscrits que je ne vous donne pas pour ne pas vous compliquer la vie. Mais voilà, ce sont des textes, des mots qu'on trouve dans les textes dont j'ai parlé au début, là. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas... Mais bien sûr que si, que je suis limité. Non, les textes disent, vous n'êtes pas limité. Notre façon de dire, vous n'êtes pas étroit, mais vous êtes vastitude. Il y a un mot sanskrit très connu, brahman, qui veut dire vastitude. Alors je regarde en moi, moi je me sens pas vaste, je me sens conditionné, voilà, j'ai mes opinions, j'ai mes idées, etc. Les textes disent non, 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 c'est parce que vous n'avez pas pris le temps de bien, bien, bien regarder qui vous êtes. Une dernière affirmation, tout ça c'est des déclinaisons de la même chose, vous n'êtes pas le moi ou l'ego, mais vous êtes le soi. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme sans trop savoir ce que ça veut dire. Le soi, c'est la dimension de nous-mêmes universelle. Ici, dans cette pièce, il y a 22 moi, ou 20, enfin, je ne sais plus combien il y en est, 22, 23, j'ai compté,
23,
23,
fois 24.
24. Il y a 24 moi, il n'y a qu'un seul soi. Le soi, c'est ce qui est derrière chacun de nos moi. Bon, je vais. Le soi, c'est ce qui est derrière chacun de nos moi, ce que nous avons en commun tous. Et je vais essayer de donner des explications. Voilà, donc ça c'est le contre-témoignage des sages. Et qu'est-ce que c'est que l'éveil? Eh bien, c'est prendre conscience de ça, c'est se rendre compte que, mais oui, je suis porteur d'une dimension infinie. Et si j'arrive à me connecter à cette dimension, j'ai plus aucun problème d'aucune sorte. Je suis capable de gérer les petits aléas, parfois les gros aléas, de la vie relative, de mon ego, de mon moi. Alors, je vais vous proposer deux images pour tenter de donner du sens derrière cette formule bizarre. Il y a 24 mois, mais il n'y a qu'un seul soi dans cette pièce. Alors, ce sont des images traditionnelles qu'on trouve aussi dans les textes. Et la première, donc, c'est l'image de la vague et de l'océan. Donc, vous avez peut-être déjà rencontré dans vos lectures. Si vous voulez bien, pendant quelques instants, on va imaginer que nous sommes chacun une vague sur un océan. D'accord? En tant que vague, eh bien, j'ai une date de naissance. C'est-à-dire qu'il y a une période où j'existais pas, moi, ma vague à moi. Il y avait déjà d'autres vagues, mais pas moi. Donc, je suis né à la surface de l'océan à un certain moment. Et puis, en tant que vague, j'ai une histoire. Au début, pour les besoins de ma comparaison, je suis une petite vaguelette et puis petit à petit, je prends de l'importance. Et quand je regarde autour de moi, il y a des vagues devant, derrière, peut-être sur les côtés, voilà. Et je me compare à ces autres vagues. Je suis content parce que je suis plus gros que la vague qui est derrière moi. C'est mon frère, c'est un petit couillon. Voilà. Et par contre, voilà, je suis à l'école et il y a des plus grands que moi et c'est des plus grosses vagues. Et alors là, ils m'impressionnent et j'ai peur d'eux et voilà, je rentre dans des. Voilà. Nous avons vécu comme ça. Nous sommes une petite vague et puis voilà. Et alors, nous essayons de grandir, de prendre notre proportion de vague, mais même quand on est adulte, il y a encore des différences. Il y en a qui sont plus riches que nous, plus beaux, plus ceci. Et il y en a qui sont moins, ceux-là, etc. Donc, nous sommes en tant que vague, affligés d'une maladie terrible qui s'appelle la comparaison. On passe notre temps à nous comparer, pas toujours, on le dit pas toujours, mais à l'intérieur, c'est très difficile d'échapper à ce mécanisme. Je suis mieux qu'un tel, je suis moins bien qu'un tel, etc. Bon, alors c'est notre histoire de vague. Et puis, alors, il y a quelque chose dont on n'aime pas entendre parler, c'est que de temps en temps, il y a une vague qui se fracasse contre un rocher. Non, non, mais là où je suis, il n'y a pas de rocher, tout va bien. Et puis, alors ça aussi, on n'aime pas du tout en entendre parler, c'est qu'il paraît qu'il y a un endroit où il n'y a plus d'eau et où les vagues s'écrasent sur la plage. Non, non, moi, pour l'instant, quand je regarde, je ne vois pas la plage. Donc, je continue à vivre ma vie de vague. Et puis, ben forcément, ben, de temps en temps, surtout quand on prend de l'âge, on se dit, mais ça serait pas la plage là-bas. Aïe, aïe, aïe. Comment je vais faire? Bon, ben, on se débrouille pour discuter avec les autres vagues et oublier que la vague se rapproche. Bon, mais quand même, tant qu'on en reste à ça, eh bien, c'est tragique, parce qu'en effet, aucune vague n'est éternelle et elles finissent tous soit brisées par un rocher ou l'étrave d'un bateau, soit s'écraser lamentablement sur une belle plage de Valandré. Bon. Alors, est-ce qu'il y a moyen de se vivre autrement qu'une vague, que comme une vague? Eh bien, tout dépend par où on regarde. Si on regarde à l'extérieur, ben, on voit d'autres vagues. Et si on regarde à l'intérieur, mais de façon superficielle, on va commencer par prendre conscience de nos limites corporelles. Ça, c'est la vague qui se dit, bah oui, moi je mesure 1 mètre, j'ai tant d'épaisseur à droite, tant d'épaisseur à gauche. Donc je suis une entité limitée. Mais si la vague a la drôle d'idée de se dire, mais ok, j'ai une limite par en haut, j'ai une limite à droite, j'ai une limite à gauche, mais en bas, est-ce que j'ai une limite? Alors voilà la vague qui se met à se dire, mais où est-ce que je commence? Et à ce moment-là, la vague va faire une drôle de découverte. Elle va s'apercevoir qu'il n'y a pas de frontière. Hein? Alors, je crois que j'ai fait une petite image là, voilà. Hein? Donc, ça, c'est une vague. Hein? Bon, voilà. Tenez pas compte de ce que j'ai marqué, là, corps physique, corps subtil. Voilà, ce sera pour une autre fois. C'est des choses un peu philosophiques. Mais vous voyez que bah, la vague, elle n'a pas de frontière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où la vague se termine et où commence l'océan. C'est une continuité. Et bien, enfin, selon la même image, si nous sommes capables de descendre suffisamment profond en nous-mêmes, il y a un endroit où nos frontières vont s'effacer. Et où, ben là, disons, juste la base de la vague, ça représente le plus profond de notre ego. Jusque-là, je suis encore un ego, mais déjà, c'est un ego qui est beaucoup plus détendu, beaucoup plus large, etc. Mais si je descends encore un peu plus bas, ah ben tiens, je suis plus un ego, je suis l'océan. Et donc, ça, c'est une image qu'on trouve dans les textes, mais qui. Voilà. Hein? Donc, pour redire. Parce que, avec cette image que je disais tout à l'heure, il y a 24 mois, mais il y a un seul soi. Eh bien, il y a 24 vagues, mais il n'y a qu'un seul océan derrière les 24 vagues. Et aucune vague n'existe indépendamment de l'océan. L'océan, il peut exister sans vagues. Il y a des moments où le vent se calme et la mer est plate. Mais la vague ne peut pas exister sans océan. S'il y a une vague, elle est forcément reliée à l'océan. Et bien, de la même manière, s'il y a une conscience individuelle, s'il y a un moi, ce moi, cet ego, est forcément relié au tout. Et c'est ça la sagesse, c'est d'en faire l'expérience, que ça soit pas juste un concept, mais il faut bien que ça commence par un bout. Donc, il faut bien, dans un premier temps, avoir l'idée, et puis ensuite, eh bien, il va y avoir donc des moyens, des techniques, des méthodes pour s'approcher de cette réalité et faire en sorte que ça soit de plus en plus une conviction d'expérience et pas une croyance. Oui?
Alors, à quoi sert la divinité? Si de toute façon on est relié à un tout, on pourrait rester un tout. À quoi ça sert finalement?
C'est une grande question, mais l'idée c'est que faut demander à l'océan pourquoi il fait des vagues, mais apparemment il aime ça. Ça fait partie de.
Il vivant,
Hein? Oui, bon, alors dans le cas des vagues, il y a des facteurs extérieurs. Mais dans le cas de la vie avec un V majuscule, apparemment, cette vie universelle, elle a la propension à créer des formes. Et on est l'une des formes créées par la vie. Mais nous, nous nous prenons uniquement pour la forme, alors que nous sommes la vie aussi.
Oui, c'est ça, c'est difficile hein, comme
mais
concept. Hein.
Est-ce oui. que, en, comment la forme rejoint la vie
okay. Oui.
Mais qu'est-ce qu'amène la vie à la forme? Alors, en fait,
ça fait
qu'est-ce que l'individualité, comment l'individualité se développe finalement dans un tout à part. Enfin,
oui,
je veux dire, à
oui,
part
oui.
Ça...
Je crois que je comprends. Dans la perspective hindoue, le sans forme est potentiellement la réserve de toutes les formes. Le sans forme a en quelque sorte besoin de se déployer sous des apparences. C'est son jeu, c'est sa richesse. Ça ne le diminue pas. Hein, il y a un très beau texte qui dit « Quand les formes sortent du sans-forme, le sans-forme est toujours aussi infini que quand les... »
C'est la réserve.
C'est la réserve, mais c'est une réserve inépuisable. Mmh. Et pourquoi est-ce que le sans-forme a besoin de se manifester ? Eh bien, quand nous y serons bien établis, peut-être on comprendra. Je veux dire, je peux donner des réponses philosophiques, mais c'est... Comment dire, la vraie réponse, c'est que quand on est établi dans cette plénitude, ça ne pose pas de problème d'être
oui,
aussi dans une forme.
Ça, on ne se pose plus de questions quand on
voilà.
est dans la
Ça ne pose pas de problème d'être dans une forme, et quand cette forme s'éteint, c'est-à-dire quand on meurt, quand un sage meurt, ça ne lui pose pas de problème. Ça ne lui pose pas de problème d'être en vie telle que nous l'entendons, c'est-à-dire dans une forme animée. Et ça ne lui pose pas de problème que cette forme disparaisse. Parce que le centre de gravité de son être est dans le sans-forme et pas dans la forme. Oula.
Ça, c'est de certains pourraient dire qu'il faut croire à ça pour pouvoir y aller.
Oui.
Et d'autres y vont sans forcément le croire, mais ils font des exercices, ils sont attirés, ils y vont. Je ne sais pas comment elle va se passer, la question, elle vient de s'envoler. Ah, elle a perdu sa forme.
Très grande forme.
Ben bien sûr, hein, je vous ai pas dit que tous les hindous, voilà. Mais ce que je vous ai dit, c'est que c'est une culture dans laquelle c'est valorisé, dans laquelle on dit ça existe. Après, ben, il y en a qui sont concernés, qui sont concernés, et d'autres qui ne le sont pas. Alors que de ce point de vue, on est dans une culture qui est plus pauvre, parce qu'on ne nous parle pas de ça, ou quand on nous en parle sous la forme d'une croyance. Et donc, bon, ça peut rendre service hein, d'avoir la foi. Moi, je ne suis pas du tout opposé au fait d'avoir la foi. Mais ben ça, ce sont des demi-réponses, quelque part. Ça peut rendre service, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir la possibilité de faire une expérience directe.
De le vivre.
Ok pour cette image de la vague et de l'océan. Alors il y en a une deuxième qui permet parfois de mieux entrevoir. Mais vous savez, les images, c'est toujours limité. Hein, à la fois, c'est des supports pédagogiques tout à fait intéressants, et en même temps, chaque image a ses limites. Alors cette image, c'est aussi une image traditionnelle, c'est l'image du soleil qui se reflète dans un verre d'eau. Si on avait du temps, là, on pourrait sortir dehors parce qu'il y a du soleil, on prendrait chacun un verre, on mettrait de l'eau dedans, et on se mettrait, il faudrait plutôt qu'il soit vers l'heure de midi, ça serait plus sûr, et on regarderait chacun dans nos verres. Qu'est-ce qu'on verrait ? On verrait une réflexion du soleil, un petit soleil au milieu de chacun de nos verres. Vous êtes d'accord ? Eh bien, ce petit soleil, c'est notre moi. C'est la conscience personnelle que nous avons et qui fait que ben, j'ai conscience de vous voir, etc., d'être dans une pièce, etc. Puis vous, vous avez conscience. Chacun d'entre nous, on a comme ça une petite conscience, je dis petite par rapport au soleil, mais en même temps, c'est un soleil, c'est assez paradoxal, parce que c'est vraiment toute l'image du soleil, c'est pas un bout du soleil qui est dans le verre d'eau, c'est tout le soleil qui se reflète, d'accord ? Et en même temps, ce soleil, c'est pas un vrai soleil, c'est-à-dire que c'est qu'une image, c'est qu'une réflexion, d'accord ? Et si on se dit « Ah, mais c'est extraordinaire, on a tous un soleil, mais d'où est-ce qu'il vient ?» Et qu'ensemble, on lève la tête, on va tous se dire « Ah ben, il vient du même soleil. » Et c'est ce même soleil qui se reflète dans chacun de nos verres d'eau. Eh bien, l'image est la suivante. Le verre, ou la coupole, ou la coupelle, ou ce que vous voulez, c'est le corps. L'eau, c'est notre psychisme, notre capacité de sensibilité, nos émotions, nos pensées. Voilà. Et l'image du soleil dans le verre d'eau, c'est la réflexion du soi, de la grande conscience, dans nos individualités. Et alors, nous sommes prisonniers, parce qu'il y a quelque chose qui brille à l'intérieur de nous, notre conscience, nous sommes prisonniers de l'impression que nous sommes la source de notre propre conscience. On a tous, avant d'y avoir réfléchi, on a tous l'impression, bah oui, je suis le producteur de ma propre conscience. Voilà. Alors, peut-être que c'est l'activité électrique de mon cerveau qui produit ça. Enfin, voilà, dans la conception scientifique, comment dire, matérialiste, la conscience, c'est un sous-produit de l'activité des neurones. Donc, si on n'a plus de neurones, on n'a plus de conscience. Ouais, ça semble plein de bon sens. Bah, du point de vue de la sagesse indienne, c'est un non-sens. La conscience n'est pas le produit de nos neurones. Nos neurones, ils produisent quelque chose, on est bien d'accord. Mais l'essence de la conscience, ça ne vient pas des neurones, ça se reflète dans le cerveau. Ça vient de la réalité sans forme, ça vient de l'océan, ça vient de l'arrière-plan, ça vient de la vie, et cette vie se reflète dans nos cerveaux, enfin dans notre individualité, et nous donne l'impression que nous sommes la source de notre propre conscience. Alors, ben voilà, donc, c'est pour ça que cette image est intéressante, je me suis amusé, je crois que j'en ai fait une deuxième, voilà, donc il y a une seule grande conscience, mais là, il y a trois individualités qui se prennent chacune pour des consciences autonome, sans se rendre compte que leur conscience autonome vient d'une source commune. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a une source commune, c'est une autre façon de le dire, et il y a 24 consciences autonomes, enfin, qui se croient autonomes.
Dans votre démonstration, ça voudrait dire que on a tous la même conscience ?
Oui. Alors, tous... Que derrière nos consciences individuelles, il y a une réalité commune.
C'est ça la conscience universelle ?
C'est ça la conscience universelle. Alors, évidemment, pour certains, le mot conscience va parler, pour d'autres, ça ne va pas parler. Donc, tout à l'heure, j'ai dit la vie. Peut-être pour certains, si on dit la vie avec une V majuscule, et puis il y a ma petite vie à moi, mais ma petite vie à moi, bah, c'est clair qu'elle est reliée à la grande vie. Voilà. Mais alors le mot vie, ça pose aussi problème, parce que alors la vie et la mort, est-ce que du coup la mort, elle atteint la vie, voilà. Donc, il n'y a aucun mot qui est parfait, donc dans les textes, il y a vraiment des mots différents pour pointer vers cette direction, et il y a un adage bien célèbre, c'est pas en âne, mais c'est plutôt dans le zen, qui dit le doigt pointe vers la lune, tant pis pour celui qui regarde le doigt. Alors, ces mots, comme le mot vie universelle, grande conscience, soi, vastitude, ça pointe dans une certaine direction, tant pis pour celui qui en reste au mot, hein, et qui du coup va discuter, oui, mais, etc. Mmh. Non, il faut, ce sont des mots qui pointent vers une expérience.
Oui, et puis il faut mettre des mots.
Et il faut, bah, si on veut en parler.
C'est ça. Voilà. Hein? Comme les mots, ce sont des malentendus.
Ah.
C'était ce matin.
C'était ce matin. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, il faut que j'arrête, mais je vais prolonger un tout petit peu.
Cinq minutes. Toi, le maître.
Donc, voilà ce que je voulais vous dire d'un point de vue théorique. Maintenant, la dernière partie, je voulais évoquer avec vous quelques figures remarquables qui, selon moi, ont vécu cet éveil et en sont des témoins dont on peut, puisque c'est des êtres qui ont vécu au XXe siècle, dont on peut lire la biographie, les écrits, etc. Ça vous va? Vous m'accordez encore quelques minutes pour... D'accord. Alors, un être remarquable comme ça, lui, il a vécu au XIXe siècle, mais il s'appelait Ramakrishna. Voilà l'une de ses photos. Et c'est un grand sage du 19e, mais qui a vraiment marqué, c'est en quelque sorte le premier sage qui a eu qui a été connu universellement. C'est-à-dire qu'avant lui, les sages indiens, ils étaient connus en Inde, mais ils n'étaient pas connus ailleurs. Voilà. Ramakrishna, il a été surtout connu à travers l'un de ses disciples qui s'appelait Vivekananda, et qui est le premier sage hindou à être venu en Occident dans les années, je crois que j'ai marqué, toute fin du 19e siècle. Vivekananda est venu aux États-Unis, a fait des conférences, a parlé de la sagesse de Ramakrishna, et non seulement il en a parlé, mais il était vraiment lui-même quelqu'un d'avancé. Et donc, il avait un rayonnement, et ce qui fait que ça a été le point de départ pour que les Occidentaux, surtout les Anglo-Saxons pour commencer, s'intéressent à la sagesse indienne. Alors, il se trouve que, je vais un peu vite, que Ramakrishna, après sa mort, il y a une fondation qui a été créée et qui existe encore, qui s'appelle la Ramakrishna Mission. Et il y a maintenant des centres, des ashrams de Ramakrishna dans beaucoup de pays d'Europe. Il y en a un à Paris, voilà. Et en général, les personnes qui animent ces centres sont des moines assez avancés, puisqu'on leur confie un centre comme ça. Et voilà, c'est des gens que... Donc moi, j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'aller dans l'ashram de Gretz, près de Paris, où j'ai rencontré l'un des descendants, en quelque sorte, de Ramakrishna et de Vivekananda. Et voilà, j'ai eu le sentiment d'être en présence d'être d'une grande qualité. Et alors après, jusqu'à où ils ont été, est-ce qu'ils sont tous éveillés ou est-ce qu'ils sont en chemin, voilà, c'est un débat un peu compliqué, mais en tout cas, ce qui compte, c'est de sentir cet homme ou cette femme, il y a quelque chose en elle ou en lui qui m'inspire, hein, et qui me donne envie de cheminer dans cette direction. Alors, un homme un peu plus proche de nous, il est mort en 1950, et alors lui m'a inspiré encore plus directement, parce que j'ai séjourné dans son ashram, quand j'étais en Inde, il était mort, bien sûr. Hein. Mais je crois qu'Alain, tu as été aussi dans son ashram. Alors, ça vaut la peine d'évoquer brièvement sa vie, parce qu'elle est un peu hors norme. Hein. Parce que, voilà, de même que de temps en temps, il y a un Mozart qui apparaît sur Terre, c'est-à-dire quelqu'un qui... qui de façon innée est un grand musicien. De temps en temps, il y a aussi un grand maître spirituel qui est presque, comment dire, c'est presque inné. Alors chez Ramana Maharshi, c'était pas tout à fait inné. Jusqu'à l'âge de 16 ou 17 ans, c'était un garçon entre guillemets normal, dans une famille indienne normale, qui s'intéressait pas spécialement aux questions spirituelles ou religieuses. Et puis à l'âge de 17 ans, comme je disais tout à l'heure, l'adolescence, c'est souvent un âge où on remet en question pas mal de choses. Il a été pris d'une crise existentielle. Il s'est dit, mais si je meurs, est-ce qu'il y a quelque chose de moi qui subsiste ou est-ce que tout disparaît ? Mais il s'est posé cette question comme un adolescent peut se la poser, c'est-à-dire vraiment, ça lui prenait aux tripes, quoi. Voilà, oui, une vraie angoisse, pas juste philosophiquement, c'est intéressant. Voilà.
Il l'a vécu.
Il l'a vécu, et puis il s'est dit à un moment donné, mais il n'y a qu'une seule façon de savoir, il faut que je fasse comme si j'étais mort. Donc il s'est allongé, il s'est dit, j'arrête de respirer pour voir qu'est-ce qui se passe. Un peu bizarre, comme les adolescents sont capables de faire. Hein. Bon. Alors, vous pourrez essayer ce soir. Ce qui risque de se passer, c'est qu'après une minute ou deux, vous repreniez votre souffle. Et puis, bah, voilà, ça ne sera pas passé grand-chose. Dans son cas, pour des raisons un peu étranges, mais probablement parce qu'il y avait une maturité, il y avait une intensité, eh bien, avant de suffoquer et de reprendre sa respiration, il y a eu un transfert intérieur de sa conscience qui, au lieu de rester dans la partie individuelle de la vague, est descendu dans la profondeur. Et il s'est dit, mais c'est pas grave, en fait, si je meurs. Je ne suis à cet endroit-là, je ne suis pas né et je ne vais pas mourir. Je suis infini. Et donc, il avait 17 ans et il s'est relevé un peu quand même tourneboulé et il s'est dit, mais en fait, j'ai la réponse. J'ai la réponse. Alors après, bon, comme le temps passe, je ne vais pas vous raconter tout. Mais il a fini dans un endroit qui s'appelle Tiruvannamalai, une ville indienne, où il s'est installé d'abord dans le temple. Et puis après, il s'est éloigné un peu du temple parce qu'il y avait trop de gens qui venaient lui casser les pieds. Parce que quand même, il avait un rayonnement particulier. Donc les gens disent « Ah, mais qui c'est ?» etc. Donc il voulait rester, en tout cas dans une première période de sa vie, il avait besoin d'intégrer cette expérience qui était assez bouleversante. Donc il s'est retiré sur une petite montagne qui est à côté de la ville, enfin une grosse colline on va dire. Puis il a vécu tout le reste de sa vie sur cette petite colline, d'abord dans une grotte, puis après petit à petit il s'est familiarisé avec cette expérience, il a retrouvé l'usage parce que pendant un temps c'était tellement fort qu'il n'arrivait plus à parler. Mais il a retrouvé l'usage de ses fonctions naturelles et du coup il est devenu un maître célèbre qui recevait beaucoup de visiteurs à qui il essayait de faire partager son expérience. Voilà. Donc
il est beau,
à travers sa photo et son regard on sent qu'il y a une présence. Et les échanges qu'il a eus avec les personnes qui venaient le voir ont été notées, et donc il y a des livres qui existent sur l'enseignement de Ramana Maharshi. L'enseignement, c'est un grand mot, parce qu'il disait pas « aujourd'hui, je vais faire un cours », etc. C'était juste, on lui posait une question, il répondait, voilà. Mais, mis bout à bout, ça donne quand même un enseignement. Bon, je vais vite, parce que normalement, je devrais avoir fini. Bon, je dis un petit mot de cet autre maître, Swami Shivananda, que je n'ai pas rencontré, mais dont à qui je suis redevable de la pratique du yoga. Parce que Swami Shivananda est l'un des premiers maîtres, je disais tout à l'heure, Vivekananda, c'est le premier à avoir été aux États-Unis et à faire connaître la sagesse indienne. Et Shivananda, c'est l'un des premiers maîtres, des premiers yogis à avoir fait connaître la pratique du yoga. Vivekananda, il a fait connaître la spiritualité, mais pas vraiment la pratique du yoga. Alors que Shivananda, il a fait connaître la pratique du yoga. Et en particulier, il a eu un élève belge, dont vous avez peut-être un petit peu entendu le nom, qui s'appelait André van Lisbeth, et qui a été le premier à écrire sur le yoga. Pas tout à fait le premier, il y a eu quelques livres avant, mais c'est le premier qui a, comment dire, dont le livre a fait un best-seller. Et à partir de là, André van Lisbeth, il a créé une école pour former des professeurs de yoga. Et puis à partir de là, le yoga corporel, le yoga postural, s'est développé. Donc, c'est à Swami Shivananda qu'on doit ça. Bon, je vais vite. Il a eu un certain nombre d'élèves, dont certains existent encore. Hein. Peut-être vous avez entendu parler d'un maître qui s'appelle Swami Muktananda et qui vient en Bretagne. C'est un Canadien. Il vient à, comment s'appelle, pas très loin, là, Saint-Jacques. Il fait une retraite. Ah, il anime une retraite tous les ans
à l'abbaye de Saint-Jacques.
C'est quelqu'un de vraiment inspirant. Si un jour vous avez envie de suivre une retraite avec Swami Muktananda, ne vous en privez pas. Ensuite, parce que la sagesse n'est pas réservée aux hommes, eh bien, je vais vous parler un peu plus longuement de cette femme remarquable qui s'appelle Ma Anandamayi, ou qui s'appelait. Pourquoi je vais vous en parler un peu plus longuement ? C'est juste parce qu'elle, je l'ai rencontrée. Voilà. Mais vu le temps, je ne vais devoir pas parler trop longtemps quand même. Donc Ma Anandamayi, eh bien, c'est une histoire un peu semblable à celle de Ramana Maharshi, mais un peu moins bizarre quand même. Elle est née avec une espèce de joie intérieure qui n'a fait que croître au fil des années et qui ne l'a jamais quittée, et qui fait que petit à petit son entourage s'est dit mais elle n'est pas ordinaire. Elle est déjà éveillée, mais elle n'a jamais prétendu à quoi que ce soit. Elle était juste ce qu'elle était. Et en effet, donc, c'était assez extraordinaire parce qu'elle n'a pas fait d'études et elle était capable d'en remontrer aux plus grands spécialistes de la philosophie qui lui posaient des questions. Elle disait, mais non, mais moi je ne sais pas. Oui, mais qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce que vous en vivez ? Et elle répondait ce qu'était son expérience. Et ils étaient tous là, bouche bée, en se disant, mais c'est écrit dans les textes, mais c'est exactement ça, comment elle a fait, etc. Donc, avec Anne-Marie, mon épouse, on a eu plusieurs fois l'occasion de séjourner auprès d'elle. Et ça a vraiment été pour nous une source d'inspiration, parce qu'on a vraiment eu l'impression que, bah oui, la sagesse, ça existait. Et d'autant plus intéressant pour moi, ça, puisqu'elle n'avait pas de culture philosophique, enfin après, à force de répondre à des questions, elle a commencé à quand même connaître les notions, mais à la base, elle n'avait pas, c'est pas par des études qu'elle est venue à ça. C'est une réalité qui existait en elle et qui, en fait, existe chez tous les bébés. C'est pour ça qu'on est fasciné par les bébés. Parce qu'un bébé, on pressent qu'il est encore très proche d'une forme de plénitude. Il n'est pas coupé de la source. Voilà. Et puis, petit à petit, il rentre dans un monde plus construit, plus limité, et puis perd cette connexion, plus ou moins. Il y a des enfants qui gardent plus ce lien plus longtemps que d'autres, hein, selon tout un tas de facteurs, mais dans le cas de Ma Anandamayi, c'est comme si elle n'avait jamais perdu ça et que même ça s'était au contraire approfondi et au fil du temps. Oui, alors c'est juste un mot aussi. Si on a eu envie de rencontrer Ma Anandamayi, c'est parce que avant nous, Arnaud Desjardins, qu'on connaissait déjà, l'avait rencontré. Il avait écrit un livre, même deux livres, où il parlait d'elle, et avec quelques photos. Et moi, quand j'avais vu, j'étais très jeune, quand j'avais vu ces photos, j'avais senti, comme peut-être vous, sur certaines photos, ben, il y a quelque chose dans cette personne, ça me fait envie, et je m'étais dit, j'irai la rencontrer. J'avais 15 ans, c'était un peu, voilà, mais finalement ça s'est fait. Alors, je vais terminer, ça va, j'aurai qu'un quart d'heure de retard, c'est pas trop, avec un petit mot pour Swami Prajnapad. Donc, Arnaud Desjardins, donc, qui était réalisateur à la télévision française et qui, pendant sa carrière, a produit des documentaires sur la sagesse orientale, la sagesse en Inde, la sagesse tibétaine, la sagesse soufie d'Afghanistan, la sagesse zen au Japon. Il a fait comme ça toute une série de films et en même temps que les films, il écrivait un livre sur, en lien avec le film qu'il tournait. Donc moi, c'est à travers ces films et ces livres que j'ai entendu parler de cette dimension de possible de l'être humain, et c'est ça qui m'a donné envie de d'étudier et puis ensuite d'aller en Inde. Voilà, donc Swami, Arnaud Desjardins, il a rencontré beaucoup de personnes inspirantes, mais entre autres, pendant plusieurs années, il a été très proche de Mananda Mayi jusqu'à ce qu'elle lui fasse indirectement rencontrer Swami Prajnapad. La limite de Mananda Mayi, c'est qu'elle ne parlait pas anglais et qu'elle n'avait pas de, elle avait vécu dans une culture traditionnelle hindoue. Elle n'avait donc pas une bonne connaissance de comment fonctionne un occidental, sous quels sont ses problèmes, etc. Donc elle était une source d'inspiration très forte pour Arnaud, mais elle ne pouvait pas être un guide au sens concret, comment je fais dans telle situation, par rapport à telle difficulté. C'est pour ça que à un moment donné, eh bien Arnaud a eu envie de rencontrer quelqu'un qui puisse le guider d'une façon plus précise et plus concrète, et que les choses étant bien faites, il a fini par rencontrer cet homme, Swami Prajnapad, qui avait une double culture. Il avait fait des études scientifiques à l'université de Calcutta, il avait même un haut niveau universitaire. Il avait du coup été professeur dans une des premières universités libres indiennes. Après la décolonisation de l'Inde, eh bien les Indiens, bien sûr, ont conservé les universités que les Anglais avaient créées, mais en changeant le personnel. Donc il avait fait partie des premiers professeurs recrutés. Et du coup, il était capable, beaucoup mieux en tout cas, de parler avec des Occidentaux et d'avoir une bonne idée de ce qu'ils pouvaient avoir comme problème, leur mentalité, etc. Donc c'est pour ça que Arnaud Desjardins est devenu l'élève de Swami Prajnapad et qui nous a transmis ensuite l'enseignement de ce maître à travers une première série d'ouvrages qui s'appelait « Les chemins de la sagesse », qui sont encore édités, que vous pouvez lire. Et puis ensuite, une deuxième série qui s'est appelée « À la recherche du soi ». Et tout à l'heure, après la postée et la petite méditation, je vous parlerai plus du contenu de ces ouvrages si vous êtes intéressé. Bon, voilà. J'avais aussi prévu de dire un tout petit mot là-dessus, parce que souvent, il y a des confusions. Donc, là, je vous ai parlé de la sagesse indienne, donc on peut rattacher à l'hindouisme. Mais l'Inde est une terre extrêmement fertile sur le plan spirituel, donc en plus de l'hindouisme et des sages qui en découlent, il y a eu d'autres mouvements spirituels, et en particulier, il y en a eu trois importants, le bouddhisme, le jainisme et le sikhisme. Alors, le jainisme et le sikhisme, vous ne connaissez pas forcément beaucoup, ou pas du tout, mais le bouddhisme, si. Donc, j'en dis un petit mot, juste pour mettre les choses en place. Donc, les hindous ne sont pas bouddhistes. Le Bouddha était un hindou, et il a suivi d'abord une voie, une démarche dans l'hindouisme, et à un moment donné, il a eu l'impression que c'était pas satisfaisant, que les enseignements qu'il avait reçus ne lui permettaient pas de s'accomplir spirituellement comme il pressentait que c'était possible. Donc il s'est dit, allez, je laisse tout tomber, tout ce que j'ai déjà appris, et puis je ne fais confiance qu'à ma propre expérience. Voilà. Alors, selon la légende, il s'est assis sous un arbre et il a dit, je ne bouge plus tant que je ne suis pas éveillé. Et après 7 jours et 7 nuits, il s'est éveillé. Voilà. C'est-à-dire qu'il a réussi à contacter l'arrière-plan sans forme dont j'ai parlé tout à l'heure. Et du coup, il s'est mis ensuite à enseigner, mais du coup, il a voulu marquer une rupture avec les autres enseignements qui étaient venus jusqu'à lui. Il a voulu reformuler avec ses propres termes. Et du coup, le bouddhisme, au début, on peut dire que c'était juste un maître parmi d'autres en Inde, mais petit à petit, c'est comme une branche qui s'est détachée de l'arbre et qui s'est développée indépendamment. Donc le bouddhisme, c'est né en Inde, mais au bout d'un moment, les hindous ont fait une réaction. Et ben, si vous ne partagez pas notre manière de voir, ben, hop. Et du coup, le bouddhisme s'est exporté dans les pays limitrophes, le Tibet, puis la Chine, puis tout l'Extrême-Orient. Voilà. Et donc, à partir du 8e, 9e siècle, il n'y avait plus un seul bouddhiste en Inde. Le bouddhisme était à l'extérieur de l'Inde. Ensuite, à partir des, quand les Chinois ont envahi le Tibet, un certain nombre de Tibétains se sont réfugiés en Inde, et du coup, maintenant, il y a des bouddhistes en Inde, mais ce sont des bouddhistes tibétains, pour la grande majorité. Voilà. L'enseignement du Bouddha est en fait très proche de l'enseignement des maîtres hindous. Mais il est formulé avec des concepts un peu différents. Et donc, si on veut faire des joutes philosophiques, on peut s'en donner à cœur joie. Et si ça ne nous intéresse pas, on peut juste se dire, c'est une autre façon de dire la même chose. Quelle est la façon qui me touche le plus ? Quelle est celle qui va... Et puis les méthodes. Hein, donc, personnellement, je me suis intéressé d'assez près au bouddhisme pendant un certain temps. Je considère que c'est tout à fait... qu'il y a dans le bouddhisme des enseignements qui ont la même qualité que ce que j'ai trouvé en Inde et auprès de Swami Prajnapada à travers Arnaud Desjardins. Voilà. C'est juste qu'à un moment donné, il faut faire un choix. On ne peut pas tout suivre en même temps, sinon on ne fait rien. Voilà, mais donc j'avais envie de faire cette précision. Le bouddhisme, c'est vraiment aussi, ça offre aussi des voies d'accès vers la sagesse, mais il faut différencier ce qui est proprement de la tradition indienne et ce qui est une branche annexe, en quelque sorte. Là, j'ai fini tout ce que j'avais prévu.
D'accord.
Ils sont, pardon ? Alors, ça dépend. Alors, par exemple, Swami Prajnapada a été marié et a eu une fille. Les autres hommes, parce que ce que je vous ai Mananda Mayi, elle a été mariée, mais elle n'a pas eu d'enfant. Elle a choisi de ne pas avoir d'enfant. Mais elle a été mariée. Oui, 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 vous avez raison. Oui, oui. Oui, 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 oui. Alors, ça dépend de voilà. Mais il y a des maîtres mariés qui ont charge de famille.
Voilà.
c'est une autre image qui est traditionnelle, qui est utilisée. C'est que nous, l'idée qu'on a de nous-mêmes, c'est ce qu'on se voit être dans un miroir. Mais cette image-là n'est qu'un reflet. Ce qu'on est vraiment, c'est ce qui nous permet, c'est le champ de conscience qui nous permet de voir notre reflet. Donc c'est une autre analogie, mais qui est tout à fait intéressante.
Voilà, petite pause.
Petite pause, hein, on a ouais. bien mérité. Ouais. Merci pour votre attention.
Voilà, donc il y a des boissons chaudes.
Ah, même.
Peut-être pas tout de suite parce qu'il faut que l'eau chauffe.